Alors c'était super parce que il y a quelques mois, le Seigneur m'avait conduit à suivre un cours de un peu plus de 25 heures sur l'épître aux Éphésiens. Et bien sûr, c'est l'épître aux Philippiens que nous allons ouvrir. C'était un petit trait d'humour. Donc ce que je peux commencer à faire, c'est de vous encourager à lire, à relire, à mâcher, à digérer l'épître aux Philippiens, qui n'est pas très grosse, mais qui est très très riche, qui est très très riche. On va peut-être commencer par lire le passage de ce matin. Donc on a découpé l'épître en morceaux, on appelle ça des péricopes, qui ne sont pas des chapitres, mais plus une succession de versets. Et ce matin, on va se plonger dans Philippiens de 1 à 11. Voilà, si vous voulez ouvrir vos Bibles. Sinon, il y a une version au tableau. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il y a la deuxième slide, normalement. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Merci Père pour ta parole, Seigneur. Merci. Parce qu'elle vient vraiment éclairer nos vies, Seigneur. Elle vient nous montrer ce chemin sur lequel nous devons marcher jour après jour, semaine après semaine, année après année, Seigneur. Et inlassablement suivre ta parole tous les jours, Seigneur. Amen. Amen. Alors, avant de rentrer profondément et dans le vif du sujet de l'épître aux Philippiens, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de faire un peu une mise en contexte de cette épître en parlant de certaines choses qui tournent autour de l'épître, et puis on se plongera un petit peu plus dans ce passage-là. Je peux faire avec ça ou... Ah voilà, ah, elle est petite celle-là, hein. Vous y voyez rien bien sûr. Sinon tu peux, j'en ai mis une autre, normalement sur le bureau c'est la même, est-ce que tu peux l'ouvrir? Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de faire un test avant, pour le machin rouge. Et on n'a plus le... Ah, pas avec ça. Ah, voilà. Le vert. Super. Vous n'arrivez pas à lire, non? Ah, on peut éteindre. Tu as mis l'autre carte ou pas? Il y en a une sur le bureau. C'est la même, mais en autre format. Est-ce qu'elle va ressortir plus grande? Alors, Philippe, c'est là-haut. Et ça... Ben, c'est la Grèce d'aujourd'hui. À l'époque, alors je crois que ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, ici, toute cette région-là que je balais, c'est ce qu'on appelle la Macédoine. D'accord ? Et dans la Macédoine, on a Philippe et on a aussi Thessalonique, Bérée, qui sont des noms que normalement doivent faire écho quand on lit les Écritures. Et en fait, dans les trajets que l'on a là, ce sont les voyages de Paul. Voilà. Et c'est au cours de son deuxième voyage, son deuxième voyage, je le trace là, voilà, qu'il arrive à Philippe. Ensuite, on en profite ici. C'est Corinthe, l'épître aux Corinthiens, et la région s'appelle l'Achaïe. D'accord ? Quand vous entendez la région de l'Achaïe, c'est par ici. Quand on entend parler de la Galatie, c'est quelque chose qui est plus ici. La Phrygie, c'est quelque chose qui est plus ici. Voilà. Et ensuite, on va lire dans Acte 16 comment Paul a été conduit pour aller implanter cette église à Philippe. Et en fait, arrivé ici, lui, il avait envie de monter là et après de repartir sur la droite pour aller en Asie. Et c'est là où le Seigneur lui a dit non. Alors d'abord, il arrive, il monte, le Seigneur lui dit non. Ensuite, il veut aller à droite et le Seigneur lui dit non. Et puis au final, il se soumet et il part à gauche, Troas, et il prend le bateau et vloup, il va à Philippe. Voilà, c'est juste pour que vous visualisiez un peu ce qui se passe. Paul écrit cette épître, ça fait partie, je crois qu'il y en a 3 ou 4, je ne me rappelle plus, depuis une prison. D'accord ? Ça aussi, ça fait partie du contexte. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont émises, parce que la lettre ne le dit pas explicitement. Certains pensent qu'il est écrit d'une prison à Éphèse, après avoir prêché l'évangile là-bas. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de remue-ménage, mais il n'est pas fait mention de cela explicitement non plus. Ou à Césarée, en bas, là-bas. Là. Ou alors à Rome, ici. Voilà. Je retiendrai, je pense, la dernière hypothèse, personnellement, mais après, voilà. Je vous épargne les commentaires de pourquoi on pense que... Vous pouvez aller lire ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, la lettre ne donne pas d'indication sur le lieu de son emprisonnement. Par contre, il est clair qu'il était au verset 13. Vous pourrez le lire dans les liens. Paul est passé à Philippe, en fait, on peut le voir, à plusieurs reprises. Donc, second voyage, c'est acte 16. Et ça, c'est vers l'an 50. À peu près, après Jésus-Christ. Il y en a qui vont le dater plutôt vers 49, et donc, quand je dis vers, voilà, c'est à peu près, hein, on n'est pas en train de pinailler sur quelques mois. Ensuite, il y est repassé, probablement quand il va faire une collecte. À un moment donné, il va faire une collecte pour les frères de Jérusalem, et il va faire une collecte dans toute la Macédoine, et on présume que forcément, il se serait arrêté aussi à Philippe. Et puis, donc ça, c'était en l'an 57, donc 7 ans plus tard. Et puis, au printemps de l'an 58, quand il repart à Jérusalem, vous savez, pour être envoyé à Rome, eh bien, il repasse encore par Philippe. Et là, il y passe au moins la semaine de Pâques. On retrouve ce texte dans Acte 20 avant de repartir vers Jérusalem. Donc Paul arrive donc vers l'an 50 à Philippe avec 3 compagnons au moins, Silas qui est cité dans l'épître, Timothée et Luc, même s'il n'est pas cité. On va lire maintenant. Ah, c'est moi qui. Tu peux tourner et aller à acte 16. On va lire maintenant. On est toujours dans la contextualisation. Ah, ben j'avais marqué ça, voilà. de ce qui s'est passé, la manière dont ils sont arrivés à Philippe. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, donc ils traversèrent la Phrygie, c'est quand je vous ai dit là, ils voulaient monter, eh bien non, ils sont partis ailleurs, et le pays de Galatie, si vous vous rappelez, arrivés près de la Mysie, donc là c'est une petite région au-dessus de la Phrygie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, donc c'est là que, quand je vous ai dit, hop, ils voulaient tourner à droite, et puis Dieu leur a dit, ah ben non, encore non, on va partir à gauche. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas, d'où ils ont pris le bateau. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » On se rappelle la région de Macédoine. Tu peux passer ? Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Voilà. Donc, ce n'était pas une destination planifiée de Paul, mais c'était bel et bien là que Dieu voulait utiliser cette équipe missionnaire. Paul y annonça l'évangile et une des premières personnes converties fut Lydie, une marchande de pourpre originaire d'une ville qui s'appelle Thyatire et qui se situe dans une région qui s'appelle la Lydie, qui est un peu plus bas que Troas, d'où son nom, la Lydienne. Le livre des Actes ne précise pas la durée du séjour de l'apôtre Paul à Philippe. Il nous apprend qu'à la suite d'une guérison d'une jeune esclave qui était possédée par un esprit de Python, pour ceux qui ont lu le livre des Actes, et exploitée par ses maîtres, ben Paul et Silas donc ont délivré cette personne et puis ont été frappés de verges et jeté en prison à Philippe. La conséquence de cette mise en prison, ben, ce fut que le geôlier, je ne sais pas si on peut dire le chef de la prison, enfin le gardien en tout cas, eh bien, il s'est converti et il a été sauvé. Lui et toute sa famille et toute sa maisonnée a été baptisée. Le lendemain, les gens de la ville, au niveau des autorités, ça, on appelle ça les prêteurs, les prièrent de quitter la ville. Avant leur départ, ils purent quand même repasser chez Lydie, donc la marchande de pourpre, et prendre congé des frères auxquels venait se joindre le geôlier lui-même avec toute sa famille. Donc là, cette petite communauté naissante fut d'abord confiée très vraisemblablement à Luc, d'accord, l'évangéliste. Puis, en fait, on voit que, alors on ne sait pas si c'est Paul ou si c'est Luc, mais des anciens et des diacres furent nommés. Dès le début, et comme dans la plupart des églises évangéliques françaises, ce sont les dames qui ont entendu et reçu l'évangile. On voit cela en Acte 16, verset 13. Et Paul, dans cette épître, va même jusqu'à... Alors, c'est important de le noter, parce que ce n'est pas forcément très courant, mais il va jusqu'à citer les noms de ces dames, et de certaines dames, du moins. Donc, il va citer Lydie, mais aussi Évodie et Saint-Tiche. Bon, je pense qu'aujourd'hui, si une dame s'appelait Saint-Tiche, pourquoi pas ? Et on pense très probablement que c'était des personnes qui portaient la charge de diacre. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de ce contexte, c'est que ben, les dames avaient une importance majeure dans l'église à Philippe. Et c'est la même chose, en fait, on retrouve ça à Thessalonique aussi. Voilà. Donc probablement que ça a touché la Macédoine, parce qu'il y a aussi d'autres qui vont commenter sur l'église à Béret. Et tout au long de ses voyages, Paul a développé une relation particulière avec l'église à Philippe. Et on sait qu'il a eu de nombreuses correspondances, de nombreuses lettres ont été envoyées à cette communauté quand il voyageait. On retrouve ça dans Philippiens 3, au verset 11, où il va dire « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses ». Voilà. Donc il est très facile d'imaginer que ce n'était pas la première lettre que Paul écrivait aux Philippiens, mais c'était une succession de lettres, et celle-là, on la retrouve dans le Nouveau Testament. C'est aussi, en fait, la seule église dont il est fait mention que Paul a accepté les dons. C'est aussi intéressant de le noter. C'était une église très très généreuse, comme toutes les églises de la Macédoine, et Paul a accepté d'être soutenu par cette église-là. On peut le lire en Philippiens 4, 15, où il est dit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes, on aime bien le passé simple, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » C'était pour Paul, en fait, une marque d'affection spéciale. Il les aimait vraiment de tout son cœur. Parce qu'à d'autres églises, et notamment à Corinthe, il ne s'est pas gêné pour leur dire « Je préférerais mourir que de recevoir ce que vous voulez me donner. » Waouh ! Calme-toi, Paul ! Là, c'était une manifestation de son amour et de sa relation particulière avec cette église. Paul n'écrit pas ici aussi pour reprendre les frères, comme on peut le voir justement à Corinthe, pour reprendre les frères et sœurs, sur des sujets particuliers. Peut-être il y en a un, ce serait celui où Paul va les encourager à travailler ensemble. Il va leur dire, mais arrêtez de vous chamailler pour des... Voilà. Et collaborez, soyez un dans l'œuvre que le Seigneur vous demande d'accomplir. Mais en fait, il va encourager tout au long de l'épître à garder la marche de la foi qui conduit inlassablement vers une plus grande ressemblance à Jésus. Et enfin, je mentionnerai ce matin que Paul a écrit cette lettre débordante d'amour, probablement avec celui qu'il considérait comme son fils bien-aimé. Bien sûr, je veux parler de Timothée. Et Timothée s'était joint à lui lors de son deuxième voyage missionnaire. Voilà pour le contexte direct. Un petit mot encore sur la ville de Philippe, si vous le permettez, avant qu'on rentre dans le texte. L'église à Philippe a été la première église établie en sol européen. Intéressant à savoir. La ville de Philippe tire son nom, en fait, du papa de Alexandre le Grand, qui s'appelait Philippe II. Et Philippe était donc dans la province de la Macédoine, et elle se situait à la jonction des routes commerciales entre l'Italie d'un côté et l'Asie mineure de l'autre. Et c'est en 42 avant Jésus-Christ que cette ville devient une colonie romaine. Et qu'est-ce que ça voulait dire ? Ben en fait, ça voulait dire qu'elle jouissait de tous les privilèges de l'Italie. Les habitants qui étaient philippiens, bien, ils étaient considérés au même titre que les Italiens. Et elle était exempte d'impôts. C'est pas mal, ça. C'est plus le cas. Je ne suis pas là, Nadine, si on me demande. Les partisans de la rédaction de cette épître, au moment où Paul était emprisonné à Rome. Donc ceux qui pensent qu'elle a été écrite au moment de l'emprisonnement à Rome vont considérer l'épître aux Philippiens comme un peu le chant du cygne. Je ne sais pas si vous aimez la danse. Ou... C'est un peu la dernière lettre à une église que nous ayons de l'apôtre Paul. Et la petite larmichette, c'est qu'il l'a écrite avec l'épître que l'on avec le destinataire de l'épître que l'on considère comme son testament, celle la dernière qu'il a écrite, qui est la deuxième épître à Timothée. Et il a écrit cette dernière lettre à une église avec Timothée. Voilà. Ça, c'était la petite touche finale. Voilà pour le contexte. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais en même temps, voilà, je trouve que c'est intéressant de rentrer aussi dans un écrit avec un arrière-plan. C'est intéressant d'aller lire ou d'aller écouter certaines choses. Peut-être vous pouvez aller le faire aussi quand vous abordez un nouveau livre de la Bible, d'aller chercher un peu le contexte pour avoir peut-être un regard un peu différent que de plonger directement le nez dedans. Voilà, donc on va maintenant reprendre notre texte. Si on peut revenir à la slide du début. Et alors, je vais sortir juste quelques points. On va prendre au début verset par verset, mais je ne vais pas forcément m'attarder longtemps sur les choses et je vais juste retirer quelques points. Donc, cette péricope est considérée comme étant un peu l'introduction de l'épître, où Paul va poser un certain nombre de choses, un certain nombre de fondements. Et donc on va commencer avec ce verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Paul et avec Timothée s'adresse aux saints et immédiatement, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il mentionne les évêques et les diacres. Alors le mot évêque, vous allez trouver soit évêque, soit ancien, soit pasteur dans les traductions, et en fait c'est la même chose, on parle de la même fonction, ce sont un peu les leaders de l'Église, et ces leaders-là sont soutenus par une deuxième équipe qui s'appelle les diacres. Et Paul pose le cadre dès le début avec ce verset, c'est-à-dire qu'il s'adresse à l'Église de Jésus-Christ. Et cette épître, elle est adressée à l'Église de Jésus, et pas aux autres. Et pas aux autres. Il écrit cette missive pour ceux que Jésus a sauvés, a pardonnés, a purifiés, a justifiés, a sanctifiés, les saints. Et Paul ne s'adresse pas ici aux sympathisants d'une église locale. Alors, s'il y en a ce matin, bien sûr, vous êtes bienvenus dans cette assemblée. Mais ce que je veux dire, c'est que cette épître a été écrite pour s'adresser aux saints, à ceux qui ont fait l'expérience du salut avec le Seigneur. Avec ceux qui ont été mis à part pour servir l'Évangile et le porter dans toutes les nations. Et alors qu'il s'adresse à l'Église, aux saints, il mentionne en particulier les anciens, les évêques et les diacres. Du coup, je voulais en profiter ce matin pour dire un mot sur la gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance ou le leadership d'une église locale, et notamment parce que il y a quand même pas mal de nouvelles personnes qui nous ont rejoints récemment. Et vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de prêtre ou de pasteur au singulier qui dirige l'Église, mais il y a des équipes de leaders, un peu à tous les niveaux, qui travaillent, du moins qui essayent de travailler, de manière collégiale. Et nous essayons d'avoir des équipes dans tous les domaines de l'Église. et ces équipes collaborent ensemble et portent la communauté. Et au sujet de ces deux équipes particulières, dans notre assemblée, en fait, elles ont évolué depuis la création de l'assemblée. Mais ces derniers temps, il semblerait que le Seigneur nous conduise pas à pas vers ce modèle que l'on retrouve à plein d'endroits dans l'Écriture, avec une équipe d'anciens et une équipe de diacres. Comme ça a été dit d'ailleurs dans les annonces, on a une réunion samedi soir prochain. Et je voudrais vraiment solliciter toute l'Assemblée dans la prière pour cette réunion. C'est une réunion où on va se projeter sur l'année prochaine, où on va parler des évolutions, de notre fonctionnement et de ce retour aussi au fonctionnement dont l'Écriture nous parle. Et donc voilà, je voulais vraiment que vous preniez du temps durant la semaine pour prier pour cette rencontre qui va être importante, qu'on soit rempli de la sagesse de notre Seigneur. Donc, pour les nouveaux dans l'Église, ne cherchez pas qui est le pasteur de l'Église, parce qu'en fait, il y en a trois. D'accord ? Il y a Pierre, David et moi-même, mais on préfère s'appeler ancien. Voilà. Comme je l'ai dit au début, c'est le même mot. Les mots diffèrent un peu dans le Nouveau Testament, mais c'est soit pasteur, soit ancien, soit évêque. Et un des mots quand même les plus employés, c'est pas celui de pasteur, c'est plutôt celui d'ancien et après c'est évêque. Mais évêque, ça fait aussi référence à un autre type d'église aujourd'hui. Donc nous avons vu en introduction que c'était très probablement Luc qui avait aidé à établir l'église à Philippe après le départ de Paul. Mais nous savons que Luc n'est pas resté et donc que soit Paul, soit Luc ont établi des anciens et des diacres pour conduire cette communauté à Philippe. Et alors Paul, au verset 2, va... Non, c'est juste là. Va ouvrir son cœur et prier quelque part. Il va dire « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Waouh. Merci Paul pour ses écrits, parce qu'on peut les prendre pour notre communauté aussi. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici, mais je vais en citer deux. Paul prie que la grâce et la paix soient données. À qui ? Aux saints. Aux saints. À ceux qui sont déjà sauvés. Et qu'est-ce que Paul est en train de nous dire là ? C'est que la grâce et la paix, certes, sont données au début de la vie chrétienne. Quand tu ne connais pas le Seigneur et que tu ouvres ton cœur pour qu'il vienne s'installer, eh bien tu reçois la grâce et la paix de Dieu. Mais Paul, il dit que ça ne s'arrête pas. Tous les jours qui vont suivre cette conversion, cette nouvelle naissance, on a besoin de la grâce et de la paix. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et l'appartenance à Christ a pour effet immédiat de procurer une très grande paix à ceux qui reçoivent la vie éternelle. Mais Paul insiste sur ces deux fondements en disant « Ce n'est pas que pour le début. Toute notre vie, nous sommes dépendants de cette grâce et de cette paix qui nous est donnée directement par Dieu. » Alors rappelons-nous que marcher par la foi, c'est avant tout marcher dans la grâce. Amen. Marcher par la foi, c'est avant tout marcher dans la grâce de notre Seigneur en recevant sa paix en toutes circonstances. Et ça, ça nous accompagne toute notre vie. Si en ce moment il y a bien une prière que nous pouvons faire pour nos frères qui sont persécutés, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Algérie, que ce soit dans tous ces pays où la violence se dresse contre les chrétiens, c'est bien celle-là, je crois. Je crois que c'est cette prière de Paul. Que la grâce et la paix leur soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, soutiens-les par ta grâce et par ta paix. La deuxième remarque, ici, par rapport à ce verset, c'est qu'alors que Paul s'adresse à une communauté plurielle, donc il y a plusieurs saints, alors qu'il mentionne les équipes qui sont elles aussi plurielles, d'ailleurs vous remarquerez que dans le Nouveau Testament, anciens et diacres sont toujours au pluriel, jamais au singulier. Eh bien, il va aussi mentionner la présence du Dieu trinitaire en utilisant l'expression « Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ ». L'Église est le peuple de Dieu, le peuple qui adore ce Dieu, qui se révèle de manière trine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et avec ce genre d'expression, je tenais à le relever parce qu'il ne faut pas minimiser ici l'expression « Seigneur Jésus-Christ ». En créant une espèce de hiérarchie entre Dieu le Père et puis Jésus, il faut plutôt y voir un parallèle très fort. Le Seigneur Jésus est cité en miroir de Dieu le Père. Et ce don merveilleux de la grâce et de la paix, eh bien, ils nous sont déversés dessus de manière conjointe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. On veut recevoir cette grâce et cette paix dans nos vies. Versets 3 à 8, vous pouvez les lire, mais moi je ne vais pas les lire. Paul exprime à la fois sa reconnaissance. Il est reconnaissant. Souvenons-nous, c'est une des seules églises qui a participé de manière très active à son soutien matériel, financier. Et Paul exprime sa reconnaissance. Il va leur dire « Vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Oui, c'est moi qui vais implanter les églises, mais en fait, on y va ensemble parce que vous êtes là à me soutenir. Et puis, il va exprimer aussi dans ces versets-là son amour avec cette expression merveilleuse « Je vous chéris avec la tendresse de Christ ». Waouh ! Ce Paul qui devait avoir un caractère bien trempé est capable d'utiliser ces mots. « Je vous chéris, je vous aime avec la tendresse de Christ ». Et pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait que cette communauté se donne corps et âme pour les progrès de l'Évangile. La part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et du coup, je voulais profiter aussi ce matin pour vous remercier au nom des anciens pour votre fidélité dans votre générosité. Quelqu'un nous a fait remarquer récemment que nous ne faisions pas souvent d'appel aux dons insistants. D'ailleurs, on a encore oublié la boîte à offrandes aujourd'hui pour le fonctionnement de l'Église. Et pourtant, mois après mois, année après année, votre fidélité est toujours au rendez-vous dans les dîmes et dans les offrandes. Et elle témoigne de votre générosité. Et par-dessus, quand on fait des appels spécifiques, quand il faut se mobiliser pour des actions d'urgence, eh bien vous répondez toujours présent et nous voulons vraiment vous exprimer notre reconnaissance pour cela. La dernière urgence en date était celle de l'Ukraine Et en 2 semaines, il y a eu plus de 4 300 € de dons. Waouh. Waouh. Merci. Merci, ça nous émeut. Ça nous émeut. Ce soutien, désolé, on ne fait pas beaucoup de retours, mais il sert. Il sert pour des achats de nourriture, des achats de vêtements. On a béni une église là-bas sur place. Il sert pour la réparation de véhicules, pour transporter les denrées alimentaires ou certaines personnes qui sont très modestes. Il a servi récemment pour bénir une famille qui vient d'arriver en France et que nous avons accueilli près d'Alès. Et voilà, on a aussi tenu à leur donner quelque chose pour qu'ils ne soient pas complètement, qu'ils ne se sentent pas complètement démunis. Alors merci, merci vraiment pour votre générosité. Et merci aussi pour votre cœur pour l'Évangile. Si on se replonge un peu en arrière, il y a eu de très nombreuses actions qui ont été menées depuis les débuts de l'Église pour porter l'Évangile dans notre région. Et inlassablement, l'Église a toujours répondu présente. Et ce que je veux dire, c'est que nous allons poursuivre cet effort, car annoncer l'Évangile est au cœur de l'existence d'une Église locale. Paul le mentionne dès le début de l'Épître aux Philippiens, et en faisant cela, il va le placer comme un fondement de la vie d'une église locale. Et nous savons que vous serez encore de la partie quand on va porter l'Évangile dans la nation de France et au-delà. Encore cette année, avec le parcours Alpha, le Prada, ou les témoignages auprès des amis, des collègues de boulot, à l'école, dans les rues, il y a eu encore beaucoup de choses qui se sont faites, et le témoignage de l'Évangile est vraiment actif au milieu de nous. Et j'ai envie de dire, on va aller encore plus loin. Encore plus loin. On ne va pas s'arrêter là. On va encore avoir des projets pour essayer d'aller porter l'Évangile vers ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Et on va brandir cette bannière de Paul dans Corinthiens où il va dire « Malheur à nous !» si nous n'annonçons pas l'Évangile. Vous êtes d'accord avec ça ? Super. Versets 9 à 11, pour la suite, tu peux, voilà. Je ne vais pas les lire non plus. Mais en réponse à cet amour dont Paul brûle pour cette église à Philippe, eh bien, il demande que leur amour en retour augmente. Augmente. Pourquoi ? Pour discerner les choses les meilleures. Il y a de grands sujets de joie pour Paul dans cette communauté et il va essayer de pousser cette joie à son paroxysme. Au chapitre 3, il dira que lui-même court cette course vers la perfection et ici, il encourage les saints à courir avec lui. Il veut que nous goûtions aux choses les meilleures. Pas qu'on se contente juste des choses de base, des fondements, mais qu'on aille chercher les choses les meilleures. Pourquoi Paul nous aime tellement, parce qu'il nous aime au travers de cette épître pour Philippe, qu'il veut qu'au jour de Christ, au jour où le Seigneur va revenir, eh bien nous soyons purs et irréprochables. Waouh. Waouh. Et là, on voit l'amour d'un père. On voit l'amour d'un père. Il ne veut pas juste que, hop, on passe comme ça, là, au travers du feu, parce qu'on n'aura pas couru cette course, mais il veut que l'on se présente devant le Seigneur, pur et irréprochable. Et alors, quand il va dérouler, dans la suite de l'épître, ses encouragements, « Tenez bon, restez !» sur le chemin de la sainteté, de la pureté. Ce sera toujours dans cet objectif de la perfection pour que nous soyons tenus debout face au Seigneur, purs et irréprochables. Il veut que, quand le Seigneur va revenir, nous entendions cette récompense qui pour moi est la plus prestigieuse que Dieu peut nous faire. C'est celle de nous dire « Bon et fidèle serviteur. » Waouh. bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et Paul, il a ce désir ardent pour chacun de nous. Alors, les amis, encourageons-nous encore et encore à marcher par la foi, à espérer contre toute espérance, à nous préserver du mal et du péché qui nous environne si facilement. Et courons vers Christ, remplis de joie, de paix et de courage. Et le Seigneur lui-même nous assistera dans cette course par le Saint-Esprit. Et je voulais juste finir par le verset 6, si on peut revenir en arrière. « Je suis persuadé, nous dit Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Amen.
Merci beaucoup, Farid.